Depuis nos montagnes,
Depuis
depuis
nos
nos campagnes,
campagnes, depuis nos villes,
à la
partout
PAF,
autour de nous,
dans les gares,
dans les trains,
sur l'autoroute,
à la préfecture,
à
à la sortie
sortie
de
de l'hôpital,
l'hôpital, dans chaque uniforme,
dans
chaque
chaque
flic,
flic,
dans nos têtes,
partout autour de nous,
partout autour de nous,
campagne, depuis nos montagnes,
depuis
nos
campagnes,
campagnes,
depuis
nos
villes,
depuis nos villes,
à la PAF,
dans les gares,
dans les trains,
sur l'autoroute,
à la préfecture,
à la
sortie
sortie
de l'hôpital,
dans chaque uniforme,
dans chaque flic,
dans
nos têtes,
partout autour de nous,
partout autour de nous.
Partout autour de nous.
Est-ce que nous souhaitons nous taire? Est-ce que nous souhaitons nous taire? Est-ce que nous souhaitons nous taire?
Est-ce que nous souhaitons nous taire?
De
la colère
et des questions
que suscite la politique européenne envers les migrantes et les migrants.
Nous voulons lutter pour un monde
sans
frontières contre les impérialismes,
d'où qu'ils soient,
et accueillir dignement
celles et ceux qui arrivent après souvent plusieurs mois de voyage.
Voilà ce qui nous rassemble. Nous assumons pour autant
un « nous »
hétérogène.
Chacun pouvant avoir sa méthode, ses outils.
Nous ne sommes ni une association,
ni un collectif,
mais sommes persuadés
que
la
somme
des
individus
est plus grande
que les individus qui la composent.
Depuis des lieux de vie et d'accueil, non loin des postes frontières, il nous faut maintenant sortir de notre mutisme douloureux, sortir d'une indéfinition qui participe à rendre invisible ce que vivent à cette frontière les premiers et les premières concernés, et d'autres, témoins et acteurs. Un « nous », jusqu'à présent plutôt fait de vie et d'action commune, sans trop de temps pour se définir ensemble et parler vers l'extérieur. Nous, pluriel, prise aux côtés des personnes directement concernées dans les mailles des filets, nous autres empêtrés dans l'urgence de la mise à l'abri de tous les dangers posés par le régime raciste et inhumain des frontières.
Depuis Briançon.
Les maraudes nocturnes en montagne des derniers mois ont sans aucun doute rempli leur objectif premier d'éviter que les personnes qui tentent de traverser la frontière française dans le Briançonnais se retrouvent seules dans le froid à la merci d'un refoulement en Italie par les forces de police. Les maraudeurs apportent en solidarité vêtements, boissons chaudes et nourritures, quelques informations sur les droits face à la police. Nous avons observé ces dernières semaines une nette recrudescence des passages, jusqu'à 20 certains soirs, malgré l'hiver toujours froid. Peut-on corréler ce phénomène avec la forte médiatisation des solidarités montagnardes ?
Peu à peu, c'est aussi renforcer la certitude que les passeurs sont non loin derrière les exilés, ce qui a placé les équipes dans un sentiment inconfortable d'être instrumentalisées. Si la dépendance aux coxeurs pour la traversée de cette frontière est sans doute liée à un manque d'informations sur les itinéraires de passage, lignes et arrêts de bus, trains, on peut sous-estimer l'effet psychologique de leur présence. Lorsqu'on doit traverser, on se sent sûrement moins isolé et vulnérable lorsqu'on a donné sa confiance à quelqu'un, qu'on l'a payé, parce qu'il garantit le passage et qu'il est souvent de sa propre communauté d'origine.
La dénonciation des passeurs par les équipes de maraude auprès des voyageurs, initiée depuis peu, vise sûrement à éviter le paiement d'une somme importante et l'abus financier qu'il représenterait, mais cette posture reflète une morale qui refuse de se percevoir comme privilégiée parce que située du côté confortable des papiers d'identité et de la liberté de circulation. Une autre conséquence possible de l'interventionnisme solidaire et de la critique des passeurs est une légitimation des maraudes en lieu et place du système des passeurs désignés comme escrocs. Cette substitution s'inscrit dans un schéma plus large, à cette frontière physique comme ailleurs, dans les parcours migratoires, dans les camps ou les pradas, des solidarités humanitaires participent à la gestion des mouvements de personnes sans souci des modes d'organisation communautaire. Soyons vigilantes et vigilants à ce que cette dénonciation ne soit pas utilisée par la rhétorique étatique qui saurait habilement la retourner contre le mouvement de solidarité en justifiant d'intensifier les contrôles frontaliers pour limiter la traite des personnes.
Avec ces passages quotidiens, on assiste à une forme de laisser-passer que l'on peut comprendre motivée par le contexte hivernal et par le souci des autorités de préserver le peu d'image humaniste qui leur reste. Suite aux dénonciations d'abus policiers systématiques à Calais, ou aux remous provoqués par les récentes circulaires Colomb, encourage à plus de persécutions contre les personnes exilées. Conscient des dangers de la montagne en hiver, le ministère ne souhaite peut-être pas provoquer trop de dégâts humains à cette frontière à l'heure actuelle. D'autant que les touristes y sont nombreux. Autant éviter le scandale. Les motoneiges de la Pave circulent donc abondamment en plein jour pour rassurer les skieurs en famille et peut-être éloigner les indésirables des photos de vacances. Mais on n'entend pas trop parler d'abus policiers par ici. Quoique, à deux reprises dans la semaine du 12 au 18 février, des interpellations violentes ont été observées contre des migrants. Les violences gratuites relatées expriment-elles la frustration des policiers de la PAF ou une certaine éthique républicaine ?
Alors que le soleil se réinstalle de semaine en semaine, les passages reprennent peu à peu aussi au col de l'échelle, après un mois d'arrêt, dû notamment à de la neige trop abondante. Plus d'une quinzaine de personnes ont traversé par là cette semaine, dont un homme disparu depuis qu'il a laissé son groupe et a préféré redescendre du côté italien. Nous portons notre attention sur les risques encourus par celles et ceux qui rêvent de venir en France dans le contexte actuel de dégel et de risque d'avalanche. Pourtant, reprendre les maraudes quotidiennes à l'échelle pourrait représenter une forme d'encouragement pour les gens en attente de l'autre côté des montagnes, comme une garantie d'être secourus pendant la traversée, et toute incitation multiplierait les risques d'accident.
Ces jours-ci, la neige fond et laisse apparaître les premières taches de terre sous-jacentes, mais aussi du kaki. À Montgenèvre, hier soir, on pouvait voir sur le parking à l'entrée du village 4 camions militaires et 2 jeeps, là où on ne voyait jusqu'alors qu'un véhicule. On croisait aussi un groupe de 8 soldats portant ski à l'épaule, de ces chasseurs alpins qui s'entraînent pour la reprise de la traque d'étrangers en situation irrégulière. Dans moins d'un mois, ce sera la fin des vacances pour les zones françaises. La fin des vacances ? Le retour des patrouilles au col ? Et l'heure de fermer les frontières ?
Ici, à Vennes, depuis le CHUM, centre d'hébergement d'urgence pour mineurs. Depuis le 9 septembre 2017, le CHUM a accueilli plus d'une centaine de jeunes arrivant de la frontière italienne, car les institutions n'ont pas eu la volonté de mettre en place les dispositifs suffisants. Face à ces lamentables moyens, ce lieu a voulu montrer qu'un accueil digne et réactif est possible. Les centres d'accueil ouverts par l'État répondent à une politique hypocrite dont le but n'est nullement d'accueillir dans le respect des lois, sans parler d'humanité, mais consiste à une stratégie d'exclusion du territoire. Les associations, mandatées au rabais par le département, proposent un pseudo-parcours d'accompagnement qui finit souvent par un retour à la rue, sans accès aux soins ni repères dans les périples de l'administration bleu-blanc-rouge. Administrations qui sont en charge de reconnaître la minorité des jeunes, avec une évaluation très controversée, arbitraire, froide et cinglante, où l'oubli de dates précises sur les mois de voyage effectués, un peu trop de poils au menton ou le fait de ne pas avoir voyagé seul exclut les personnes d'un possible avenir dans les Hautes-Alpes. Et nous savons que c'est la même déroute dans les autres départements. Sous couvert des politiques nationales, l'inspection académique, la CPAM, l'Agence régionale de la santé, l'aide sociale à l'enfance, le département, la préfecture, les mairies, la PAF, entravent l'accès à leur droit d'exister. Le 13 mars prochain aura lieu à Gap le procès d'expulsion du CHUM, ce lieu autogéré, organisé par des gens qui demandent à minima que les institutions respectent la loi et qui proposent beaucoup mieux qu'elles. Ce procès, c'est la seule réponse officielle de notre État face à nos dénonciations. Et l'on voit que pour protéger ces remparts, le rouage est huilé. Huissier, traitement des demandes d'expulsion, dans ce sens-là, ça fonctionne bien. Fait de briques et de brocs, le CHUM est un lieu de vie, de passage, d'échange, d'entraide, qui répond à l'urgence constante et à un besoin criant d'humanité. Au quotidien, écœuré par cette triste politique, le CHUM est rythmé de récup, de dons, de permanence médicale, d'accompagnement juridique, de moments de partage, de visites prévues ou spontanées qui font du bien. Il continue à vivre, malgré nos grosses cernes qui nous empêchent d'oublier cette réalité.
Collectif Alexois de solidarité. Au CAO, à Alex, les premiers arrêtés de renvoi ont été exécutés. Des personnes dublinées qui se font renvoyer dans le pays européen dans lequel leurs empreintes ont été, pour la première fois, relevées. Des Afghans, Afghanes, des Irakiens, Irakiennes se retrouvent ou sont en passe de se retrouver donc en Suède, en Autriche, en Bulgarie. Ces situations sont malheureusement les premières d'une longue série. Le collectif est en pleine réflexion sur les actions de résistance à mener. À côté de cela, il faut chaque jour veiller à ce que le minimum soit assuré par les services de l'État. Rien ne va de soi, pas même pour aider à l'achat de couches et de lait pour les bébés, et compléter pour que les rencontres puissent avoir lieu, pour que la vie soit simplement vivable, un minimum, pour que celles et ceux qui arrivent puissent être aussi considérés autrement que simplement comme des migrants. Comme des femmes et des hommes, avec des désirs, des histoires, des talents. Et qu'ils et elles puissent le dire, le montrer et le partager. Parallèlement, la lutte pour que les enfants puissent être scolarisés à l'école municipale se poursuit, par différents biais. On espère pouvoir bientôt vous donner des nouvelles à ce sujet. Pour l'heure, il n'y a plus aucun enfant en obligation légale d'être scolarisé. La tension avec la municipalité est donc un peu retombée. Nous continuons d'opérer à froid.
Depuis le Diwa, la violence nous broie.
Des histoires de vie plus trash les unes que les autres, des amis survivants et survivantes aux réactions inconcevables des administrations et de l'État en passant par l'oppression imposée par les lois et les flics.
Une réalité qui nous pète sans cesse à la gueule, sans savoir toujours comment l'exprimer. La violence des situations multiples que cette lutte nous fait vivre.
Ils, elles, ont traversé un périple inimaginable.
Leurs histoires ne sont jamais décrites ici ou là, comme ils, elles nous les racontent.
Torture,
soumission,
viol,
esclavage,
enfermement.
Aucun mot ne peut exprimer,
dépeindre réellement ce qui leur est arrivé. Le silence.
Les médias qui tentent de raconter, eux-mêmes passent souvent à côté de leur récit.
Chaque jour pourtant, dans leur tête,
dans nos têtes,
ces traumatismes persistent et ne laissent pas le sommeil tranquilliser nos esprits.
Chaque jour également, depuis leur arrivée en Europe, une autre forme de violence s'impose.
Celle d'un État raciste et oppressant
qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme et de sécurité intérieure, oublie d'entendre la parole de ces hommes, femmes et enfants qui n'entrevoient plus que des solutions inimaginables après leur long voyage.
Retourner au pays.
Se voir contraindre à faire marche arrière vers des territoires qui ne peuvent pas plus les accueillir.
Pays tiers, premier pays d'arrivée, Dublin.
Et les lois asile et immigration en cours
ne font que renforcer les impasses et noyer leurs histoires dans des entretiens impersonnels et uniquement constitués de critères. Chaque jour, les incertitudes sont plus nombreuses. Lorsque la grosse machine humanitaire s'en mêle, ces histoires ne sont toujours pas entendues.
Cette violence continue d'être prise en pitié. Alors quoi ?
Devrions-nous nous laisser contraindre encore et toujours par des procédures ?
Devrions-nous continuer à nous laisser enfermer dans des formulaires ?
Contraint à répondre sagement de nos droits, alors que l'État lui-même se défile de ses devoirs.
Quand bien même nous continuons à avancer avec ces mots. Droit.
Devoir.
Droit.
Devoir.
Droit.
Devoir.
Droit.
Devoir.
Nous aimerions pouvoir nous en défaire.
Car il n'est pas juste question que l'État respecte les lois.
De toute façon, ces lois sont régies par l'État.
Quand bien même ces lois sont celles qui permettront ou non à nos amis d'avoir des papiers, sommes-nous simplement contraintes, de tenter de les comprendre pour les faire appliquer.
Des papiers. Ils en ont plein depuis qu'ils ont mis le pied en Europe.
Guda, Pada, entretien à l'OFI, à l'OFPRA.
Entretien à l'OFI, à l'OFPRA.
Récépissé de circulation.
Guda, Pada, entretien à l'OFI, à l'OFPRA. Récépissé de circulation.
Guda, Pada, entretien à l'OFI, entretien à l'OFI, à l'OFPRA. Récépissé de circulation. Guda, Pada.
Ils ont aussi et avant tout leur histoire.
De préférence dans un français compréhensible par l'administration.
Rangé parmi tous les autres papiers dans un classeur.
Revenons à la violence.
L'oppression est permanente.
Elle devient tantôt un moteur, tantôt une pluie de larmes, tantôt une rage enfouie et qui ne demande qu'à être crachée.
La stratégie de l'État, cet État policier qui répond lui aussi par la violence, en limitant le passage aux frontières avec des jeeps militaires, des camions de gendarmerie, une traque coûteuse
est bien de ne pas nous laisser le choix. Est-ce que nous souhaitons nous taire ?
Non.
Le silence est déjà bien assez prégnant dans la bouche des camarades. Nous ne sommes pas investis dans ce combat pour aider ces exilés que bon nombre montrent du doigt.
Nous ne sommes pas là que pour agir en solidarité avec elles et eux.
Nous ne serons pas des gestionnaires de la misère engendrée par ce monde de mort, comme si nous agissons depuis l'extérieur.
Ce sont nos propres vies qui sont en jeu ici aussi. Ce n'est pas une guerre des blancs contre les noirs,
mais encore et toujours des riches contre les pauvres. Et notre rage part de là aussi.
Cette violence que l'État nous impose est bien un signe étouffé du combat éternel du refus d'être broyé par un système de riches imposé par les riches.
Chaque jour, nous tentons de transformer cette violence, ces violences, en rage.
Chaque jour, cette rage grandit.
Chaque jour, une part conséquente de cette rage est aussi enfouie, réprimée, au plus profond de nos ventres.
Un jour, il n'y aura plus que le choix d'expulser cette rage de nos corps, de nos vies, pour ne pas qu'elle nous consume.
Un jour, nos rages rassemblées seront plus fortes que leurs lois. Et nous n'aurons plus qu'à y croire.
Nous y croyons déjà, d'ailleurs.
Arrivé sur le sol français, après 2, 3, 4, 5 refoulements, avoir peur de se faire prendre. La police est là de toute façon. Les militaires aussi, armés. Les montagnes sont des frontières. Nous sommes des criminels. J'ai froid. J'ai mal aux pieds. Je suis en France. Arrivé. Prise en charge. Des gens. Je mange. Je mets un pull. J'ai un lit pour dormir. Si je veux, je reste. Si je veux, je pars. Pour aller où ? Là-bas à Briançon, on me propose Paris. Marseille. Si je suis mineur, Gap. À Gap, ils ne reconnaissent pas la minorité. Ils croient toutes que je mens. Je reste un peu. J'ai besoin de me reposer. Je découvre la vie en France. Brièvement, car dans la zone des 20 km autour de la frontière, même si je suis en France, même si je suis mineur, je peux me faire attraper à n'importe quel moment par la police. Je fais attention. Je peux partir. Je peux prendre le bus. Je peux prendre le train. Je rencontre des personnes qui me proposent de venir chez elles. C'est la route. C'est la chance. J'y vais. Je comprends que je dois me rendre à la préfecture pour faire une demande d'asile. C'est comme ça ici. Je dois me déclarer pour faire ma demande d'asile. Pour avoir des papiers. Les personnes qui m'accueillent me proposent de m'accompagner. Je viens de Guinée, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Mali. Je viens d'anciennes colonies françaises. Je parle français. Je ne parle pas le même français qu'ici, mais je parle français. Je me rends à la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Je prends rendez-vous pour ma demande. On m'enregistre. On me donne un papier déclarant que j'ai été bien enregistré. Et un rendez-vous dans une autre ville, une grande ville. C'est le GUDA, le guichet unique des demandeurs d'asile, cette fois-ci. C'est à Grenoble. C'est dans 3 semaines. J'ai mon papier. Mais je ne me sens pas en sécurité. On m'explique les démarches, la procédure. 3 semaines plus tard, je vais à Grenoble. Je dois m'enregistrer. C'est la procédure. Je rencontre la personne de l'accueil, puis une autre qui me fait entrer dans son bureau. Elle me pose des questions. Il faut regarder dans les fichiers. Mes empreintes. Une première machine vérifie si mes empreintes ont été enregistrées. Ils ne trouvent pas.
une deuxième machine. C'est Eurodac et Visabio. Mes empreintes. On me demande de raconter. Je raconte. Je demande parfois un traducteur. Je parle Soussou, Bambara, Malinké. Je parle français, mais je demande un traducteur car ce n'est pas le même français. Même si je comprends, je ne peux pas être à l'aise pendant une, deux, trois heures. J'ai besoin d'un traducteur pour que ce soit plus précis, pour que je comprenne mieux. Parfois, je le demande plusieurs fois, et j'explique même que je ne peux pas lire ce qu'on me demande de lire. Il n'y a pas toujours de traducteur. Je raconte par où je suis passé. Ils ont trouvé mes empreintes. À la sortie du bateau, oui, je me souviens. Et la deuxième fois, non, je ne m'en souviens pas. J'ai fait une demande d'asile en Italie. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Souvent, je n'ose pas poser la question. Je ravale mes larmes seulement. De toute façon, je ne me sens pas en confiance. Je me sens jugé. Je ne sais pas ce qui est à dire ou non. Je raconte ce qu'on me demande de raconter. Mais mes empreintes en Italie, dans ce campo, à cette date, non, je n'ai pas fait de demande en Italie. Non, je ne veux pas demander l'asile en Italie. De toute façon, je ne comprends pas ce qu'ils me racontent en Italie. Les femmes qui nous donnent à manger nous alpaguent comme si nous n'étions rien. Les endroits où l'on dort, c'est le froid, c'est dur. Si j'ai mal quelque part, il faut que je fasse comme si j'étais à l'agonie. Sinon, je sais que personne n'écoutera. Et quoi que j'ai, Doliprane. Ils m'ont fait des prises de sang, trois fois. Je n'ai jamais eu les résultats. La semaine dernière, une femme a même mis un coup de fer à repasser brûlant sur la joue d'un ami. Alors non, je n'ai pas fait ma demande d'asile en Italie. Au rendez-vous, la femme me donne des documents à lire. Je ne peux pas toujours les lire. Mais il devrait y avoir un traducteur. Je signe. J'ai déposé ma demande. Je suis en procédure Dublin. Je suis en catégorie 2, s'ils n'ont trouvé mes empreintes qu'une seule fois. En catégorie 1 et 2, s'ils ont retrouvé mes empreintes deux fois. Je ne me souviens pourtant pas d'avoir fait ma demande là-bas. Au téléphone, un frère me dit qu'ils l'ont renvoyé en Italie. Un autre est déjà revenu ici. Encore un autre me dit qu'ils lui ont donné l'asile.
On m'explique les démarches, la procédure.
J'espère. Je doute.
Je n'ai pas fait ma demande.
Je comprends le
bus. On fait des prises de sang.
Mais je ne peux pas être à l'aise pendant une heure, deux, trois heures.
Avoir peur de se faire prendre.
Je rappelle par où je suis passée.
De toute façon,
ils ont trouvé mes empreintes.
Les militaires aussi.
Mes empreintes armées.
J'ai besoin d'un traducteur pour que ce soit plus précis.
Ah bon, vous êtes sûr ?
Je n'ai pas fait ma demande d'asile en Italie.
Mes empreintes en Italie ? Dans ce campo ?
Au téléphone,
à cette date,
un frère me dit qu'ils l'ont déjà renvoyé en Italie.
Non.
Un autre est déjà revenu ici.
Je n'ai pas fait de demande
encore
en Italie.
Encore un autre me dit qu'ils lui ont donné l'asile.
J'espère. C'est la route.
Je doute.
C'est la chance.
Hier, trop de boules de clates. Hier, man, c'est que t'es pas quitté. Une vie d'avalanche. La nation a été construite au fil des siècles sur des fondements racistes. Elle est l'un des piliers pour hiérarchiser les humains avec tout en haut les blancs, ma gueule. Après avoir payé par millions de vies pour le crime d'être noir, les noirs doivent encore payer aujourd'hui pour le même crime. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. De conneries, ça me saoule tout cela quoi. Un jour dans l'enfer, ma vie n'est pas tout à fait meilleure. Je repère la lueur de mon espoir dans le désert. Où tout est désert, c'est partout les kilomètres. Ici c'est la réalité du Sahara où tout est rare. Ton seul âme, c'est le courage, pas des bagages, ni un sac à dos, pas de manger, ni à boire. On est épuisé, plus d'énergie, les pieds sont lourds, la mort s'approche, tes proches tombent sous le soleil accablant. D'autres crient, oh maman, je vais mourir, tu pourras plus revoir ton iris.
Son cadavre sera traîné dans le désert. Quel malheur. Sayama Kini Kini n'a moins de l'écu. Et pour le soulager, on dit ne crains pas la mort. Ce n'est que le début du prochain voyage. Cet univers est trop vaste, ces planètes sont trop nombreuses. Seule la terre reste notre demeure. Et les maîtres restent les humains, la créature la plus mauvaise.
Nous étions tous humains avant que la race nous déconnecte. Nous étions tous humains avant que la religion nous sépare. Nous étions tous humains avant que la politique nous divise. Nous étions tous humains avant que la richesse nous classifie.
Quand on raconte notre histoire, c'est côté la classe à l'air tiroir. Et c'est fini, ferme leur armoire. Ces hommes au pouvoir nous font croire avec leur mâchoire. Que noir synonyme d'abattoir doit se soumettre au colomètre et mettre sa dignité au trottoir. Pas de possibilité ni de crédibilité. Notre dignité est effacée au visage plein d'amertume. Le marquis s'était battu pour bâtir notre avenir. Mais tout est foutu, comme le foutu ou foutu cassé rassé. Nous avons cassé les soupirs du passé pour se voir réfléchir au présent. Cette réfraction nous fait tourner, nous montre les images de la Libye. L'homme noir piétiné, écrasé, dominé sur la terre de ses ancêtres. Et les dirigeants se taisent, pourtant le cerf se font violer, ses vampires au pouvoir voient leurs visages.
Nous étions tous humains avant que la race nous déconnecte. Nous étions tous humains avant que la religion nous sépare. Nous étions tous humains avant que la politique nous divise. Nous étions tous humains avant que la richesse nous classifie. Nous étions tous humains avant que la race nous déconnecte.
Merci aux bénévoles de la France, à toutes ces braves femmes et ces hommes croisés, de Nevas à Briançon, la CRS, en passant chez Marcel, de la veine à Gap, de Grenoble jusqu'à Marseille. Big respect à tous. Le grand rasoir de ce soir, Eva, Mathilde, Aboubakar, Lisa, Mamadi, Yambe, pas trop mal de personnes. Mathieu, Charlotte, Alain, Raphaël, Sekouba, Giba, Ibrahima, Gantouma, l'Empereur, Gat, Belkacem, Justin. Ouais, au micro, c'est Aboubakar. La vie, c'est comme ça, on peut pas avec la MIFA. Tous pour un pour tous.
Depuis Gap, la Maison Cézanne, depuis son ouverture en avril 2016, a accueilli 200 personnes. Actuellement, 14 habitants y vivent, plus des familles avec des enfants en bas âge, logés par le 115 dans un hôtel, sans possibilité de se faire à manger. Elles préparent donc leur repas dans la cuisine du premier étage et occupent une chambre attenante le temps de la journée. Cela met beaucoup d'animation avec 4 enfants de 7 mois à 6 ans. Le nombre total de personnes concernées par le quotidien à Cézanne est de 25. Aucun militant n'habite la maison. Au moment de l'ouverture, ils étaient bien sûr présents, géraient tous les problèmes avec les habitants qui arrivaient d'Afrique de l'Ouest, d'Érythrée ou de Tunisie. Mais au fil des mois, des désaccords sont apparus avec des membres du collectif Un Toit, Un Droit, chargés de la gestion de la maison. On a reproché aux militants l'occupation permanente d'une chambre. Malgré cela, des repas, des soirées invitant des gens de l'extérieur étaient organisés. Mais peut-être lassés par la répétition des difficultés, ces militants ne sont maintenant plus présents. Une AG regroupant membres du collectif et habitants était organisée chaque semaine, les échanges étaient dynamiques, riches et respectueux des différences. On sentait de la part de chacun une réelle implication. Petit à petit, la fréquence de ces AG s'est espacée. Les quelques militants présents passent plusieurs fois dans la semaine. Ils aident dans l'élaboration des dossiers auprès de l'administration et de divers organismes, préfecture, CPAM, PASS, urgence de l'hôpital, et essaient d'impliquer les habitants dans la gestion de la maison. Tant bien que mal, ils s'organisent, essaient de récupérer difficilement de l'argent. Le gaz coûte cher pour 25 personnes, dont beaucoup ne bénéficient pas de l'ADA. Aide aux demandeurs d'asile, allocation mensuelle d'environ 360 euros, attribuée à une personne seule pendant l'instruction d'un dossier par l'OFI. 2 mois sont nécessaires pour qu'elle soit effective. Et est suspendue dès que l'instruction connaît une difficulté. Dès lors, les problèmes financiers de la maison Cézanne s'accentuent. Mais depuis bientôt 2 ans, et malgré les difficultés accumulées, la maison et ses habitants tiennent le coup. La mairie, propriétaire du bâtiment, a mis du temps à réagir à cette occupation illégale d'une maison vide depuis 10 ans. Rappel d'un historique de vie. Ouverture le 18 avril 2016, rendue nécessaire pour la mise à l'abri d'une famille tunisienne avec 4 enfants. 5 avril 2017, passage d'un huissier mandaté par la mairie, ordonnant l'évacuation du lieu. 9 mai, audience au tribunal de Gap, bizarrement reportée à la demande de la partie adverse qui n'avait certainement pas travaillé son dossier. 19 septembre 2017, décision de mise en délibéré repoussée au mois de novembre. La juge ordonnera l'évacuation de la maison pour le 21 juillet 2018, 8 mois de délai. De recours en report, 2 ans et 3 mois de vie. Et la rumeur dit que ce ne sera peut-être pas fini. Des témoignages des habitants sont unanimes, tous identiques à celui de Mamadi Ibrahima Mohamed qui déclare « La maison Cézanne doit rester ouverte longtemps. Nous sommes à l'abri, vraiment tranquilles et soutenus par les militants à qui nous devons montrer notre solidarité et notre amitié. Ils montrent pour nous beaucoup de disponibilité. » Certains habitants, après un passage à la maison Cézanne, sont pris en charge par le réseau Welcome qui les place chez les bénévoles. Longue vie à la maison Cézanne qui, après elle, a vu s'ouvrir la maison chez Marcel à Briançon et la maison des chefs de gare à Vennes appelée CHUM, centre d'hébergement d'urgence pour les mineurs isolés. Ces trois lieux que l'État voudrait fermer mais ne peut ignorer répondent à une obligation d'accueil hélas insuffisamment mise en place dans notre pays. En 2017, entre 1300 et 1900 migrants sont arrivés dans les Hautes-Alpes par les cols frontaliers. Bienvenue à eux. La maison Cézanne, c'est un peu de lutte et d'action qui se mesure au quotidien et qui ne doivent jamais perdre la capacité de se référer aux valeurs idéales et essentielles pour lesquelles on se bat.
Depuis l'Italie,
de l'autre côté des Alpes,
le dispositif Frontières se perfectionne, RFI et ONG, collaborateurs du système. Du côté italien, entre Bardonecchia et Clavière, le dispositif Frontières se perfectionne. Durant le dernier mois, RFI, Réseau Ferroviaire Italien, a amélioré son système de contrôle et de sélection qui est appliqué à l'intérieur des gares dans la Haute-Val de Susa, en particulier sur Bardonecchia. Pour le système ferroviaire, la présence continue des exilés à l'intérieur de la gare représente un problème de sûreté pour les cheminots en service et un malaise pour les passagers en attente de prendre des trains. Depuis, la décision d'engager deux vigiles qui contrôlent le stationnement dans la salle d'attente et jettent dehors tous ceux qui n'ont pas de ticket. On est en pleine saison de ski, la présence de dizaines de migrants qui remplissent encore la dernière gare avant la frontière, avant de tenter de rejoindre à pied la France, ou parce que déjà repoussés par la police française et reconduits ici, déstabilisent l'ordre d'une petite ville comme Bardonecchia, qui vit l'hiver de touristes et de skieurs.
Sélection et exclusion. Divisé et caché pour mieux contrôler. Fonctionnel en ce sens-là est aussi le prolongement des horaires d'ouverture, maintenant aussi diurne, la petite salle de l'ONG Rainbow for Africa, adjacente à la gare de Bardonecchia, mais séparée de celle-là, à l'intérieur de laquelle les voyageurs coupables d'être sans papier peuvent trouver refuge, sans se mélanger aux touristes et navetteurs. Cette ONG fonctionne grâce au travail de plusieurs bénévoles qui s'alternent à la gare. Leur boulot a commencé au mois de novembre, aux portes de l'hiver, quand, après différentes pressions sur l'administration, elle a obtenu en concession l'usage de la salle de la gare. L'humanitarisme débarqué à la frontière grâce à Rainbow for Africa a donné la possibilité à des dizaines de personnes de ne pas passer la nuit au froid, d'avoir des habits, des médicaments. Mais il est bientôt devenu un des engrenages qui permettent à la machine des refoulements de fonctionner, en assumant un visage plus acceptable. La gendarmerie et la PAF l'utilisent, déportant à la gare de Bardonecchia des dizaines de personnes bloquées chaque jour et chaque nuit au border, où ils savent que Rainbow for Africa est là, prête à mettre un pansement à la brutalité de la frontière et de plus en plus à les réinsérer dans le circuit institutionnel.
Dans le même temps, la possibilité pour les solidaires d'intercepter, parler et chercher une complicité avec les migrants s'est réduite au minimum, à partir du moment où les opérateurs de l'ONG semblaient plus fidèles aux directives du commissariat de police qui formellement règle l'usage de la salle, qui prévoit que dans l'intérieur de la salle, y transitent seulement les autorisés. De plus, Rainbow for Africa a recruté des médiateurs culturels qui semblent chercher à dissuader les migrants de tenter de passer la frontière et des légaux qui opèrent de fait une sélection entre ceux qui ont quelques possibilités d'entrer en France légitimement et ceux pour qui c'est mieux de rentrer dans les structures d'accueil de lesquelles ils ont échappé. Le nouveau paquet Bardonecchia prévoit enfin que pour ceux qui veulent, il y a un service navette de la Croix-Rouge italienne qui accompagne les migrants au campo de la Croix-Rouge de Settimo Torinese. Il semble, dans cette façon de démarrer, quoique en mode encore peu structuré, un système de contrôle complet du destin du migrant qui passe à travers la sélection et la réintégration dans le circuit d'accueil institutionnel.
Sur l'autre front, il y a Clavière, localité immédiatement en dessous du col de Montgenèvre, qui, en jugeant du nombre de personnes, semble être plus récemment le point de passage privilégié pour qui veut passer. Ici, pour le moment, le grand transit de migrants qui tentent de traverser à pied ou en bus la frontière ne semble toucher ni la mairie, selon laquelle le phénomène n'existe pas, ni l'église locale, dont le prêtre, après la demande par quelques citoyens d'utiliser les espaces réchauffés de l'église pour donner un abri d'urgence à qui de passage dans ces jours très froids, avec des températures même inférieures à moins 15 degrés et l'inexistence de places couvertes où se réparer, a nié toute aide.
All cops are borders. Le problème majeur continue d'être la présence de la gendarmerie et de la police des frontières françaises qui patrouillent les rues et les pistes enneigées avec de nouvelles motoneiges, parfois alertées par les conducteurs même de la compagnie de bus Resalp, utilisée par qui de passage veut arriver au border.
Le dispositif frontière se perfectionne. Et il assume l'association de la gendarmerie et de la PAF française qui vient à Bardonecchia pour contrôler qui monte dans les trains en départ pour Modane. Il suffit de n'être pas blanc et de ne pas ressembler à un touriste pour se faire contrôler. Les médiateurs invitent à rentrer dans le système institutionnel de l'accueil et offrent parfois des passages gratos jusqu'au campo de la Croix-Rouge à Torino. À la tête, des vigiles qui jettent hors de la gare qui n'a pas de ticket. Le système se structure en se préparant à l'été.
Si jusqu'ici l'intérêt principal a été de ne pas rendre trop visible le phénomène et chercher à éviter les morts pour ne pas se faire mauvaise publicité, protéger l'image et le tourisme de ces villes de frontières, on verra ce qu'il va se passer quand la neige fondra et que l'hiver finira, complice naturel du dispositif frontalier en haute montagne. Le printemps amènera de nouveaux scénarios aux frontières, différents de ceux d'aujourd'hui, et une pluie d'argent dans la vallée pour multiplier les tentacules et l'efficience du dispositif de contrôle et de sélection préventif.
Notre rage est notre fortune.
Scintillante.
Dans les regards craintifs.
Dans les regards craintifs.
Dans les reflets attendris de la lune.
De la lune glacée.
Glacée.
Nous terrassons nos peurs.
Sous les yeux des salauds.
Des salauds baignant dans leur tristesse. Des hordes remplies d'errance.
S'abattent.
En une onde vaporeuse. À l'exhalaison
hargneuse. Se dissolvant dans le silence.
Dans le silence.
Les mots
sont du vif.
Les mots sont du vif.
Évaporés en colère.
Diffuses.
Contrites
dans la tristesse de nos traces.
Tristesse de nos traces.
Laissées à la merci des tempêtes de cristal.
Nos visages. Lacérés par les nuées glacées
d'étoiles en suspension, aveuglés par notre propre sueur suintante
de nos pores alarmés
et dans une oraison bramée
dans le silence.
La horde craintive,
craintive
s'effraie
devant
la horde craintive devant
les luminaires.
Est-ce que nous souhaitons nous taire ?
Comme
des oiseaux
en cage.
@riseup.net.
Net.